VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 28 décembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seludia. Pour commencer, les titres. Les élections en RDC, manifestation interdite, le président sortant, Félix Tshisekedi, toujours en tête. La République centrafricaine, liée au groupe russe Wagner, discute avec la société militaire américaine Bancroft. Au Mali, les partisans de l'influent imam Mahmoud Diko dénoncent une cabale contre lui. Le Bénin lève la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger. La Côte d'Ivoire va livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Mexique pour tenter de trouver une issue au casse-tête de l'immigration. Ne manquez pas notre page sport, la Minute Éco ainsi que nos dossiers du jour. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, une semaine après les élections, la situation est tendue. La publication de résultats partiels donne une large avance au président sortant, alors que l'opposition réclame l'annulation pure et simple de ce qu'elle qualifie de simulacre d'élection. Le point avec Antoine Roger Bolamba.
Hier à Kinshasa, un important dispositif policier a empêché la tenue d'une manifestation interdite. Dès le début de la matinée, des policiers anti-émeute ont été positionnés aux abords du Palais du Peuple, siège du Parlement, d'où la marche devait partir. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène contre des sympathisants de l'opposant Martin Fayoulou, regroupés devant le siège de son parti. Selon des résultats partiels de la présidentielle publiée hier par la CENI, le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, arrive en tête avec plus de 79% des voix. Moïse Katumbi arrive en seconde position avec 14,7% des voix, suivi de Martin Fayoulou, 3,45%. Les autres candidats n'atteignent pas 1% des suffrages, dont le docteur Denis Mukwege en cinquième position avec 0,26%. Le chaos n'est pas arrivé et il n'arrivera pas, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. L'opposition devrait attendre la fin de la publication des résultats provisoires pour les contester devant la Cour constitutionnelle, comme prévu par la loi, a-t-il insisté. La publication des résultats complets provisoires est prévue au plus tard le 31 décembre.
Les autorités de la République centrafricaine sont en contact avec la société militaire privée américaine Bancroft. L'information a été confirmée par le groupe américain au moment où Bangui dit vouloir diversifier ses relations en matière de sécurité. Mohamedou Humfa.
Le service de communication de Bancroft a démenti que le groupe soit déjà déployé à Bangui, mais a admis des contacts avec le régime du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. À partir de juillet, Bancroft a accepté un cadre pour discuter de possibles activités futures avec le gouvernement de la République centrafricaine, dit le groupe. Lié depuis 2018 au groupe paramilitaire russe Wagner, la RCA tente de diversifier ses partenariats stratégiques. Le 23 décembre, le média centrafricain Radio Ndeke Luka a diffusé un enregistrement dans lequel le porte-parole de la présidence, Albert Yaloke Mokpeme, affirmait, je cite, « Dans le cadre de la reconstruction de l'armée nationale, nous avons fait appel à des partenaires parmi lesquels la Fédération de Russie, l'Angola, le Maroc, la Guinée, qui nous aident à former nos soldats. Les États-Unis proposent eux aussi à la République centrafricaine de former ses soldats aussi bien sur le sol centrafricain que sur le sol américain, avait-il ajouté. Selon le quotidien français Le Monde, Washington a proposé à Bangui fin 2022 un accord de sécurité en échange d'une prise de distance avec le groupe Wagner. Ni Washington, ni Bangui n'ont confirmé cette information.
RCA toujours dans le but de renforcer la sécurité dans la zone et faciliter l'accès humanitaire à la population. Des casques bleus de l'ONU se déploient dans le nord-ouest où 23 civils ont été tués le 21 décembre dans un massacre attribué au groupe armé 3R. C'est ce qu'on a appris hier auprès de la force onusienne qui dit dans un communiqué que le village de Nakundu a été la cible d'une attaque meurtrière ce 21 décembre précisant que le village a été incendié et que le reste de la population aurait fui vers la brousse. Au Bénin, la direction du port autonome de Cotonou a annoncé la levée de la suspension des importations des marchandises à destination du Niger, une décision qui laisse entrevoir de meilleures relations entre le Bénin et le Niger. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Annoncée comme étant la rencontre de tous les espoirs pour la décrispation de la situation politique, la rencontre entre Patrice Talon et les représentants du Parti Les Démocrates, dont l'ancien président Yahi Boni a eu lieu. Plus de 3 heures de discussion sur des questions essentielles. Je souhaite qu'on débatte sans langue de bois, a lancé le chef de l'État Patrice Talon selon une source locale. Son prédécesseur, prenant la balle au bon, a déclaré que le système électoral n'est pas inclusif. Il est difficile de parler de paix sans parler de nos compatriotes en prison, en exil, a déclaré Yahi Boni. On ne peut pas aller aux élections de 2026 avec le statu quo. Il faut trouver des solutions, il faut trouver un consensus, a déclaré l'ancien président. Face à ces doléances, Patrice Talon a donné son accord pour l'audit de la liste électorale et a promis travailler pour la correction de toutes les anomalies qui s'y trouveraient. L'autre point à l'ordre du jour concernait la libération de Réki Amadougou, ancienne ministre de la Justice, sous Boni Yahi, ancienne conseillère du président togolais Faure Yassine. Malgré les arguments avancés par l'ancien président demandant la bonne foi de son successeur, ce dernier est resté intransigeant. Monsieur le président Boni Yahi, je vous ai déjà dit que je ne compte pas gracier Réki Amadougou. Si les acteurs politiques ne doivent pas en rendre compte de leurs actes, ce n'est pas bien. Laissons un code à la République. Parfois, le pardon peut être une faute, rapporte la même source. En marge de cette rencontre, le président de GDS Afrique, Maître Sadiku Alao, a déclaré à la presse qu'il souhaite que cette rencontre qui se tient à 2 ans des prochaines élections soit à la taille de la grandeur que représentent les deux anciens présidents. Il faut que les décisions annoncées soient aussi grandes que l'espoir du peuple, a-t-il ajouté. En plus de Boni Yahi, la délégation était constituée du premier vice-président du parti, Eric Rondeté, du deuxième vice-président, Léon Komlan-Rossi, et du président du groupe parlementaire, Nous réunions à Tchadé. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire va livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée suite à l'explosion et l'incendie du principal dépôt de carburant qui a fait 24 morts et 450 blessés dans ce pays. En tout, plus de 11 000 personnes ont été affectées directement par l'incendie, selon la télévision nationale ivoirienne. Le ministre guinéen de l'économie, Moussa Cissé, s'est entretenu mercredi à Abidjan avec le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Au Mali, les partisans de l'imam Mahmoud Diko ont dénoncé hier une cabale orchestrée contre lui sous le feu des critiques depuis plus d'une semaine. Pour un voyage en Algérie, Mnani Talani.
La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko constate depuis un certain temps sur les réseaux sociaux une cabale orchestrée contre son parrain, l'imam Mahmoud Diko, en lien avec son voyage en Algérie et sa réception par le président Abdelmadjid Tebboune à Alger. L'ambassadeur algérien a été convoqué par le ministre malien des Affaires étrangères pour élever une vive protestation. Bamako a dénoncé des rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes. Dans la foulée, l'ambassadeur du Mali en Algérie a été rappelé vendredi à Bamako pour consultation. L'imam Diko a affirmé que des hommes politiques à Bamako avaient initialement l'intention d'aller en Algérie, mais ont changé d'avis quand ils ont su que l'imam y allait. Des individus qui parlent au nom des autorités l'ont qualifié de traître et l'ont accusé de conspirer avec les rebelles contre le Mali. La CEMAS précise que les prises de position politique de l'imam Diko ne sauraient être assimilées à de l'hostilité contre son propre pays. L'imam Mahmoud Diko est l'un des rares à oser exprimer ouvertement ses désaccords avec la junte et à pousser pour le retour des civils au pouvoir.
Le Mexique et les États-Unis se sont félicités mercredi du voyage d'urgence à Mexico du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, estimant qu'il a permis des avancées dans le dossier brûlant de la crise migratoire au moment où les deux pays s'apprêtent à entrer dans une année électorale. Le point, Jean-Roger Bion.
Annoncé brusquement quelques jours plus tôt, ce rare déplacement de M. Blinken à l'étranger pendant les fêtes est intervenu au moment où les Républicains au Congrès exigent un accord sur l'immigration avec le gouvernement du président Joe Biden en échange de leur soutien à une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine. Nous avons été vraiment impressionnés par certaines des nouvelles actions qu'entreprend le Mexique et nous avons vu ces derniers jours une réduction assez significative des passages de la frontière, a déclaré un responsable américain dans l'avion de M. Blinken pendant le voyage de retour vers Washington. Ces dernières semaines, quelques 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, soit près du double des chiffres enregistrés avant la pandémie, débordant les autorités américaines. M. López Obrador, le président mexicain qui s'est entretenu au téléphone avec son homologue Joe Biden le 21 décembre, s'est engagé à renforcer les mesures de contention des migrants dans le sud du pays, à la frontière avec le Guatemala.
La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
Le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou, a annoncé mercredi le directeur général du port dans un communiqué après 5 mois de sanctions ouest-africaines appliquées en réponse au coup d'État à Niamey. Cette mesure a été prise au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion, a-t-il justifié. Au Cameroun, la Société des dépôts pétroliers rassure sur la disponibilité du carburant, alors que depuis quelques jours, l'inquiétude sur une nouvelle pénurie s'est emparée des automobilistes. Les volumes globaux se situent à environ 88 millions de litres pour ce qui est du super, a écrit la SCDP sur son compte Facebook. Début décembre, les automobilistes camerounais ont fait face à une pénurie qui a duré plusieurs jours. En Ouganda, la récolte des gousses de vanille pour la campagne de 2024 se déroulera du 5 janvier au 5 avril prochain, a annoncé le ministre de l'Agriculture. Ce nouveau calendrier défini par l'exécutif tient compte des variations régionales pour éviter la récolte de gousses immatures dans les zones de production. L'Ouganda est le deuxième producteur et exportateur africain de vanille après Madagascar.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les léopards retenus pour la CAN 2023 sont connus.
Oui, Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo, a appelé 24 joueurs pour le déplacement en Côte d'Ivoire, même si la CAF autorise jusqu'à 27 joueurs. Sur la liste du technicien français, il n'y a qu'un seul joueur issu du championnat local, Ngoussa Badjo Siaidi, gardien de but du tout-puissant Mazembe. Les cadres de la sélection sont présents. Comment comprendre les choix de Sébastien Desabre? Analyse sur place à Kinshasa avec Francine Nkoufi, journaliste sportive à Sinec TV.
Je suis d'accord à 85% avec le coach. Là où ça fauche un tout petit peu, c'est quand il choisit d'aller avec 24 joueurs en lieu et place de 27, comme l'avait accordé la CAF. Il zappe 3 joueurs au moment où dans son milieu de terrain, il laisse tomber un joueur techniquement fort, Balikwisha. Pourquoi ? Question mark, c'est lui le maître. Je respecte sa décision. Il choisit d'aller avec 24 joueurs, parmi lesquels 20 sont inexpérimentés. Quand je dis inexpérimentés, c'est par rapport à cette compétition. 20 joueurs sont à leur première participation. Il n'y a que 4 joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. Là, je cite Chancel Mbemba qui a sa 5e participation. Je cite Cédric Bakambu qui a sa 3e. Je cite Meshak Elia et Arthur Maswaku qui sont à leur 2e participation. On dit on ne change pas l'équipe qui gagne, je suis d'accord. Il a battu cette campagne avec pratiquement les 90% de cette équipe. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance tout en respectant ses choix.
Francine Nkoufi, journaliste sportive à Sinec TV. La République démocratique du Congo joue son premier match le 17 janvier contre la Zambie avant d'affronter le Maroc et la Tanzanie dans le groupe F basé à San Pedro.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Alors que nous abordons les derniers jours de ce mois de décembre, nous en profitons pour jeter un regard dans le rétroviseur. Commençons par le Nigeria, où l'année 2023 a été marquée par la présidentielle du 25 février, qui a débouché sur la victoire de Bola Ahmed Tinubu, mais aussi sur des réformes économiques initiées par le nouveau pouvoir qui affectent négativement le coût de la vie des Nigérians. Le résumé des grands événements au Nigeria dans la rétrospective de l'année qui s'achève, c'est avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le 25 février dernier, plus de 90 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur président, député et sénateur pour les quatre prochaines années. Le 28 février, Bola Ahmed Tinubu, un ancien gouverneur de l'État de Lagos, la capitale économique du pays le plus peuplé d'Afrique, est déclaré vainqueur de la présidentielle.
That Tinubu Bola Ahmed of the APC.
Que Tinubu Bola Ahmed de l'APC ayant satisfait aux exigences de la loi est déclaré vainqueur et donc élu.
Dans son discours d'investiture, Bola Tinubu va faire une annonce qui va créer la surprise et affecter durement le pouvoir d'achat des millions de Nigériens.
Malheureusement, le budget avant ma prise de fonction ne prévoit aucune subvention au carburant. La subvention au carburant n'existe donc plus.
L'annonce a fait l'effet d'une bombe et depuis, l'inflation a pris une courbe ascendante. Le prix de l'essence est passé de 185 naira à plus de 600 naira le litre. Le président Tinubu a promis d'investir ailleurs les fonds qui étaient depuis des années destinés aux subventions sur les carburants. Beaucoup de Nigériens n'ont pas apprécié la mesure.
S'il y avait eu un projet de suppression de la subvention, ils auraient pu d'abord prendre fonction et faire des négociations à l'amiable, mais pas venir annoncer brusquement. Maintenant, les gens ont déjà payé la subvention et ils ont refusé de vendre leur carburant. Au moment même où je vous parle, il n'y a pas de carburant dans mon véhicule et je suis maintenant bloqué.
Le même débat et à chaque fois, c'est le même impact. Vous supprimez les subventions d'un côté, vous augmentez le coût de la vie de l'autre. Vous augmentez l'inflation, les emplois sont perdus et vous créez plus de pénurie dans un autre aspect de la vie. Vous reprenez à zéro.
Les réformes décidées par le président Ahmed Bola Tinubu ont poussé les syndicats à descendre dans la rue.
Cela m'affecte sérieusement parce que je suis fonctionnaire d'État après tout. Le salaire n'est même pas un sujet de conversation. Quel est le salaire? Depuis la suppression des subventions sur le carburant, je ne peux plus conduire ma voiture parce que je n'ai pas les moyens d'acheter du carburant. Je ne peux pas.
La population qui dit attendre beaucoup de la nouvelle administration en 2024 souhaite une concrétisation des résultats des réformes promises par le président Tinubu. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, l'année 2023 a été marquée par de nombreux événements, dont la mort subite de Henri Conan Bédié, l'ancien président du pays, le retour des militaires ivoiriens pris en otage au Mali et les préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les détails avec Ange Nomenio, notre correspondant à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, le début de l'année 2023 a été marqué par une manifestation de joie populaire. C'était le retour tant attendu des soldats ivoiriens en Côte d'Ivoire, détenus au Mali pendant près de 6 mois. Ils ont été accueillis à l'aéroport par leurs familles et les autorités ivoiriennes. Adam Kwasi, lieutenant dans l'armée ivoirienne.
Je voudrais estimer, au nom de tout le groupe, notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour nous, pour notre retour au Bénin.
Alassane Ouattara, président de la République.
Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pouvons reprendre des relations normales avec le pays frère, qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Mais sont nos frères.
La mort de l'ancien président ivoirien Henri Colombidier est l'autre grand événement qui a marqué la Côte d'Ivoire le 1er août 2023. Le sphinx de Daoukro est décédé à Abidjan des suites de malaise à l'âge de 89 ans. Cyriac Youboué, militant du PDCI.
Aujourd'hui, on m'informe que le président va mal à point, qu'il a été transféré ici à Abidjan. Donc je dis, si c'est comme ça, je vais me rendre à sa résidence. Malheureusement, à ma grande surprise, on vient d'être informé que le président a rendu l'âme. C'est vraiment un coup dur pour nous, les militants. Et c'est vraiment une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et pour le PDCI-RDA. Donc je crois en l'avenir d'un PDCI-RDA. Je pense que les dignitaires, les secrétaires exécutifs au sein du parti, avec la mort du vieux, vont fédérer leur énergie pour qu'on puisse vraiment obtenir un PDCI-RDA fort et concurrent.
Le banquier Tidiane Thiam a été élu pour succéder à Henri Colombidier à la tête du PDCI. Pendant ce temps, sur le plan sportif, le pays s'apprête à accueillir la deuxième CAN de son histoire. Les préparatifs sont presque terminés et les Ivoiriens sont plus que jamais enthousiastes à l'idée d'accueillir ce grand événement. Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football.
Une fois qu'on aura offert cette CAN, toutes les dispositions seront prises pour que la sécurité soit assurée, pour que les conditions, je dirais, de vie, de qualité soient assurées dans la ville d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit « Abidjan est doux ». C'est universel. Et donc, nous allons faire en sorte que tous les étrangers apprécient.
L'année 2023 se termine donc sur cette note d'optimisme en vue de l'organisation de la CAN. L'année 2024, pour sa part, promet d'être le sprint final pour les préparatifs de l'élection présidentielle de 2025. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Gabon, les fêtes de fin d'année sont une aubaine pour les commerces. Depuis quelques jours, les ventes et les commandes s'enchaînent auprès des opérateurs locaux, initiateurs des expositions mettant en lumière leur savoir-faire. Un petit tour d'horizon de ces activités saupoudrées de l'ambiance festive avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Pour faire plaisir à leur famille, les Gabonais ont envahi les marchés. Ce qui fait l'affaire des commerçants, comme ici à la foire des artisans locaux, qui se tient sur l'esplanade de la place de l'Indépendance. Jomo Tiswami, une exposante.
On se retrouve ici pour essayer de faire écouler un peu nos produits, parce que nous sommes souvent dans les maisons. Donc quand on organise ces événements, ça nous permet, nous les transformatrices, de venir écouler nos produits. Ça fait découvrir à la population et permet aux gens d'utiliser nos produits. Parce que nous voulons vraiment consommer gabonais.
À 5 minutes de là, les publicitaires d'un grand magasin annoncent l'arrivage d'une nouvelle gamme de jouets pour enfants. Amélie sort des rayons avec un chariot bien
pris. Il y a les poupées, il y a la trottinette et puis les vélos, petits vélos pour bébés. Enfants ont demandé à avoir ce genre de jouets-là. On est obligé de le faire, malgré que la vie elle est chère.
En effet, pour Noël, tout comme pour le nouvel an, l'inflation joue déjà les troubles faits. Matas, mère de famille, vient de s'en rendre compte sur les états du marché de viande fraîche à Momboué.
Je suis venue pour prendre la viande fraîche. Bon, moi, j'avais toujours l'ancien prix de 3 500 le kilo. Mais en arrivant ici, le constat est vraiment déplorable. Le prix qui était à 3 500 est maintenant à 4 500, 5 000.
Si la fête est devenue en partie une opération marketing inégalée, Noël est surtout connu pour sa dimension religieuse. À l'église Sainte-Marie de Libreville, l'une des plus anciennes du Gabon, la chorale Sainte-Geneviève revisite son répertoire de chants pour la fête de la Nativité. Adeline est membre de la chorale.
C'est des chants qui parlent de la naissance du Christ, comment le Christ est arrivé sur terre, on le célèbre en fait. Voilà, donc certains parlent de l'histoire de l'arrivée du Christ, hein, lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer la naissance à la Vierge Marie, jusqu'à la naissance du Christ, l'arrivée des mages, les cadeaux.
Un bémol cependant, l'atmosphère de Noël, avec la musique et le parfum envoûtant du réveillon, risque d'être parasité par le couvre-feu en vigueur au Gabon,
depuis le coup d'état militaire du 30 août dernier. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
En République démocratique du Congo, plus de 25 personnes ont perdu la vie à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Les victimes ont été surprises par des glissements de terrain après des pluies diluviennes qui se sont abattues jusqu'à mercredi matin sur la région orientale du pays. Un reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Plus de 20 morts, des maisons inondées et des ruelles impraticables, c'est le sombre tableau qui représente ce matin 4 des 8 quartiers de la commune de Kadutu. Ce sont les quartiers Kasali, Mosala, Nyamugo et Nkafu qui ont payé le plus lourd tribut à cette catastrophe naturelle. David Chikuru, habitant de Bukavu.
On a enregistré 11 morts sur l'avenue Kawa, au quartier Nyamugo. Dans le quartier Nyakaliba, on a enregistré 5 morts sur l'avenue Wesha dans le quartier Nkafu. On a enregistré 3 morts. De nombreux blessés sont enregistrés et sont pris en charge dans les structures sanitaires.
L'un des leaders de la nouvelle dynamique de la société civile souligne que cette catastrophe est la deuxième pour le seul mois de décembre 2023. Patrick Mongwa-Konkwa estime qu'il est temps que les autorités se saisissent de la question des glissements des terrains.
C'est inconcevable qu'on continue chaque fois à enregistrer des dégâts humains, des dégâts matériels, chaque fois qu'il y a des pluies, des nivelles qui se battent sur la ville et que les autorités ne réfléchissent à aucune mesure. Nous sommes en train d'interpeller encore une fois leur conscience afin qu'on puisse établir un plan d'assainissement de la ville de Bukavu, un plan de sécurisation, un plan de gestion des catastrophes naturelles.
Les canalisations sont pleines de déchets et le mur de certaines maisons risque de s'effondrer. Le bourgmestre de la commune de Kadutu rassure que les mesures ont été prises pour éviter de nouvelles victimes.
Les dispositions, on ne peut pas dire qu'il y en a vraiment, à part le fait qu'on a demandé aux habitants qui sont juste proches de ces endroits qui peuvent présenter des dangers d'évacuer ces lieux-là, d'aller d'abord chez les voisins, le temps qu'au niveau provincial, on puisse trouver peut-être des mécanismes de réparer peut-être les caniveaux qui sont bouchés et qui entraînent que les eaux puissent être concentrées à un endroit et ainsi créer des dégâts.
La ville de Bukavu fait face à un énorme défi de respect des normes urbaines. De nombreux experts ont souvent recommandé aux autorités de procéder à un élargissement de la ville pour limiter les dégâts environnementaux, un plan qui n'a jamais été mis en application. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seruya, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnou, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, Lex, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.